8h30 en temps universel. Merci d'écouter RFI. Dans 10 minutes, la libre antenne. Mais pour l'instant, la dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Xavier Besson.
Bonjour Juan. Bonjour à tous. À la une aujourd'hui, la satisfaction de Kinshasa. Et Kigali qui parle de son côté d'une décision injuste, des réactions au Rwanda donc et en République démocratique du Congo. Après que les États-Unis ont placé hier sous sanction James Kabarebe, l'un des proches du président rwandais, et Lawrence Kanyuka, le porte-parole politique du M23, ce groupe armé soutenu par le Rwanda et qui occupe aujourd'hui une partie de l'Est congolais. Dans ce journal également, nous serons en Tunisie, 2 ans après les déclarations de la présidence sur l'immigration subsaharienne et la vague de violence qu'elle avait déclenchée. Au Mali, où des habitants d'un village de la région de Tombouctou en sont partis sous la menace des djihadistes. Enfin, au Burkina Faso, d'où le groupe pétrolier français confirme qu'il passe la main à une entreprise locale. L'un est un haut responsable politique rwandais, homme clé du dispositif sécuritaire du président Paul Kagame. L'autre est le porte-parole politique du M23, le groupe armé justement soutenu par le Rwanda, qui occupe aujourd'hui une partie des provinces congolaises des Nord et Sud Kivu, où des combats ont encore été signalés hier. Les deux hommes donc, James Kabarebe et Lawrence Kanyuka, sont ensemble placés sous sanction par le Trésor américain. Pourquoi ? On voit cela avec Guillaume Nodin.
Pour Washington, les prises de Goma à la fin janvier et de Bukavu plus récemment, ainsi que la rapide expansion du M23 dans l'est de la RDC ont conduit à des milliers de morts civiles et à des déplacements forcés de population, et cela risque de dégénérer en conflit régional. Et dans cette déstabilisation, Kabarebe et Kanyuka jouent un rôle central selon le Trésor américain. Son communiqué dénonce très clairement leur rôle dans l'organisation et la progression dans l'est de la RDC de la FCM23, Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire soutenu par le Rwanda. James Kabarebe est le ministre rwandais de l'intégration régionale et il est présenté comme ayant un rôle central dans le soutien rwandais au M23 et dans son organisation militaire. Le Trésor américain lui attribue aussi un rôle clé dans l'extraction et l'exploitation des ressources minières dans l'est de la RDC. Lawrence Kanyuka est lui le porte-parole civil de l'AFC M23. Les sanctions consistent essentiellement en des gels d'avoirs des personnes concernées et des entités leur appartenant, comme 2 sociétés de Kanyuka basées à Londres et à Paris qui sont également sanctionnées. Le Département d'État appelle quant à lui au retour à la table des négociations et au respect de l'intégrité territoriale de la RDC. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Les États-Unis qui n'ont pas envoyé leur chef de la diplomatie en Afrique du Sud. Depuis hier, se tient à Johannesburg une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du G20 avant un sommet de l'organisation à la fin de l'année pour la première fois sur le continent africain. Les États-Unis fâchés avec l'Afrique du Sud qu'ils accusent de discrimination envers les fermiers blancs. Et les autorités sud-africaines, de leur côté, tentent de faire contre mauvaise fortune bon cœur sur place. Claire Bargelès.
C'est finalement la chargée d'affaires de Pretoria qui a remplacé le chef de la diplomatie américaine dans la salle. Et la semaine prochaine, au Cap, le secrétaire du Trésor, Scott Bessent, devrait lui aussi être absent au sommet des ministres des Finances. Le président Cyril Ramaphosa a tenté de minimiser le tout.
Ce n'est pas un revers finalement, car les États-Unis sont quand même représentés ici. Nous allons réussir par la voie diplomatique à échanger autour de ces problèmes afin d'aplanir toutes les difficultés qui ont pu voir le jour dans nos relations.
Il n'y a pas eu de photos de famille des autres ministres des Affaires étrangères. Selon des sources diplomatiques, des représentants européens auraient refusé d'apparaître aux côtés de Sergueï Lavrov. Mais le président sud-africain s'est lui entretenu avec le ministre russe. La guerre en Ukraine aura beaucoup occupé les discussions, comme le détaille l'ambassadeur allemand en Afrique du Sud, Andreas Peschke.
Évidemment, la question de l'agression de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine est difficile à aborder au G20, puisque l'agresseur se trouve dans la salle. Mais cela reste important d'avoir un dialogue ici avec les partenaires des pays du Sud, et en ce sens, le G20 est donc un bon forum pour en discuter en plénière et lors des rencontres en marge de la réunion.
Malgré les tensions diplomatiques, Cyril Ramaphosa compte aller de l'avant avec son programme pour le G20 et faire entendre la voix des pays en développement sur les dossiers de la dette et du changement climatique. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Où en est-on en Tunisie, 2 ans après le communiqué de la présidence qui affirmait que l'immigration subsaharienne changeait la composition démographique du pays? Des mots qui avaient provoqué des réactions outrées à l'international notamment, mais qui avaient aussi enclenché une vague de violence contre les Noirs africains, qu'ils soient en Tunisie de manière légale ou non. Aujourd'hui, les conditions de vie des migrants subsahariens en situation irrégulière se sont considérablement détériorées. Correspondance de Lilia Blaise.
Après 2 ans de campagne sécuritaire contre les migrants subsahariens, de rapatriement vers les pays d'origine, de campagnes haineuses et racistes sur les réseaux sociaux à leur encontre, et des refoulements de plusieurs milliers d'entre eux aux frontières algériennes et libyennes, le bilan de la politique migratoire en Tunisie pose question. Les autorités nient tout traitement inhumain des migrants et mettent en avant les chiffres de contrôle des flux migratoires. Le pays a assuré le retour volontaire de 7250 migrants irréguliers subsahariens dans leur pays d'origine en 2024. Cependant, plus de 20 000 migrants seraient toujours présents dans la région d'El Amra, à l'est du pays, où la majorité vit dans des champs d'oliviers. En 2024, les autorités tunisiennes disent avoir intercepté en mer et sur terre 80 000 subsahariens et démantelé 96 camps de fortune. Les dérapages de politique sur la question migratoire sont encore fréquents, comme récemment une députée qui a suggéré le contrôle des naissances des femmes migrantes après une recrudescence de celles-ci observée à l'hôpital de Sfax. Plusieurs associations ont dénoncé ces propos et appellent l'État à ne pas rester passif face aux discours racistes. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Dans l'actualité des pays africains, ce matin également le Niger, où les assises nationales ont pris fin hier à Niamey sur la proposition de prolonger la transition de 5 ans, période de transition commencée en 2023 après le coup d'État qui a renversé le président Bazoum. 5 ans donc, renouvelables une fois, et les assises concluent aussi qu'il faut amnistier les auteurs du coup d'État et leur permettre de se présenter aux futures élections. En Guinée, les forces vives dénoncent des actes de torture après qu'Abdoul Sakho, figure de la société civile guinéenne, a été retrouvé hier dans un état critique et abandonné en brousse par ses ravisseurs. Avant-hier, il avait été enlevé par des hommes encagoulés, d'après ses avocats. Au Mali, les habitants de Dianké ont dû quitter leur village sous la menace du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda. Dianké, c'est dans la région de Tombouctou, précisément entre Léré et Niafunké. Les djihadistes ont sommé mardi soir les habitants de partir. Depuis, l'armée malienne a pu se rendre dans un village largement déserté, nous raconte David Baché.
Les djihadistes sont arrivés mardi au crépuscule du soir. Ils ont ordonné aux villageois rassemblés dans la mosquée de quitter le village, sans explication. Selon plusieurs sources locales, la majorité des habitants de Dianké et du hameau voisin de Filiki, par peur, ont obtempéré, établissant un vaste campement de fortune à environ 2 km en brousse. Certains ont ensuite rejoint des villages alentours. Quelques habitants ont refusé d'obéir et sont restés chez eux. Plusieurs interlocuteurs expliquent que Dianké se trouve dans une zone contrôlée par le JNIM depuis des années et s'interrogent sur le motif de cet ultimatum. Depuis, l'armée s'est rendue à Dianké, mais sans prendre position dans le village. Les forces maliennes et leurs partenaires du groupe Wagner ont un camp à Léré, à une 20aine de kilomètres, une ville elle-même sous blocus du JNIM. Depuis fin novembre, seuls les véhicules militaires parviennent encore à entrer et sortir de Léré. Sollicité par RFI, ni l'armée malienne ni le gouvernorat de Tombouctou n'ont donné suite, mais une source sécuritaire malienne assure que les militaires et leurs partenaires russes se tiennent prêts pour une éventuelle attaque.
Le Mali, d'où Total Energy s'est retiré le mois dernier. Hier, le groupe pétrolier français a confirmé son départ également du Burkina Faso. Précision et explication avec Claire Fage.
La direction de Total l'a confirmé à l'occasion d'une rencontre avec le ministre burkinabé de l'Industrie et du Commerce, Serge Poda. Le géant français du pétrole cède ses activités de distribution au Burkina Faso, 170 stations-service, à Coris Investment Group. Une compagnie burkinabé d'envergure s'est félicité le responsable du développement commercial de Total en Afrique de l'Ouest, Padaram Baké, qui a dit espérer que l'opération offrirait l'opportunité d'assurer la continuité des opérations pour les clients industriels et privés. Coris Investment Group incarne le nouvel élan de souveraineté économique en Afrique. Établi dans la banque et l'assurance, la société burkinabé a repris la filiale de Société Générale au Tchad. Elle se diversifie dans l'hôtellerie, l'immobilier, les mines et donc désormais l'énergie. Pour Total, présent depuis 1954 au Burkina Faso, une page se tourne. L'insécurité et les tensions diplomatiques entre Paris et les pays du Sahel ont accéléré une tendance de fond. Le retrait de Total de l'aval pétrolier en Afrique francophone. Le groupe français avait déjà quitté la Centrafrique, le Niger, le Tchad et il y a quelques semaines, le Mali.
Enfin, sachez qu'au Sénégal, les autorités donnent leur feu vert à des fouilles sur le site du camp militaire de Tiaroy, là où l'armée coloniale française a tué au moins plusieurs dizaines de tirailleurs africains en 1944, 35 morts au bilan officiel, certainement 10 fois plus, estiment les historiens, et le bilan de ce massacre, c'est justement ce que les fouilles vont tenter d'établir. À Dakar, il est maintenant 9h40 et vous êtes avec Juan Gomez.
9h40 à Paris, merci.